Un podcast Studio Dilettante.
Les chroniques de l'inframonde.
On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
Et on vous explique comment faire.
Hors série de l'été.
À la rencontre des nouvelles maisons d'édition. Bonjour à tous, c'est l'été et donc aujourd'hui on est dans un épisode hors série consacré aux jeunesses de maisons d'édition. Aujourd'hui on rencontre Camille Rago, fondatrice des éditions Oniri. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Camille, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les éditions Oniri s'il te plaît ?
En quelques mots, je vais essayer, ouais. Alors, les éditions Oniri, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2019, qui est spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Et en fait, j'ai trois collections. J'ai la collection Vapeur et Mécanique, qui est dédiée au steampunk. Une collection Enquête fantastique, qui est spécialisée dans le polar d'imaginaire. Et la troisième, qui est dédiée à la fantasy et qui s'appelle le Voyage onirique. À la base, en fait, je voulais faire une maison d'édition de littérature fantasy, mais bon, c'était voilà, il y a déjà beaucoup de maisons d'édition dans ce domaine-là qui font des très bons livres, donc j'ai préféré me spécialiser dans le steampunk, qui est plus qui est un genre qui est encore en émergence aujourd'hui en France, en tout cas, et qui mérite d'être exploré, et aussi pour lequel on a finalement très peu d'auteurs français publiés. Donc j'avais envie de développer ce genre-là.
Quand on a lancé notre structure, on nous a conseillé de penser une ligne éditoriale en une ou deux phrases. Comment est-ce que toi, tu la définirais si tu as fait cet exercice-là ?
Je dirais que Oniri, c'est une maison d'édition spécialisée dans le steampunk, qui est un genre à mi-chemin entre le roman historique et la science-fiction. Et que l'objectif, c'est de promouvoir ce genre et de le faire découvrir au public français.
Et du coup, comment tu t'es retrouvée à créer une maison d'édition ? C'est quoi ton parcours pour devenir éditrice ?
Alors là, ça va être compliqué en deux phrases, donc ça va être un peu plus long. Alors, en fait, à la base, moi, j'ai fait une licence de droit, et le droit, ça ne me plaisait pas spécialement. Hein. C'est une façon de voir le monde qu'à travers des problèmes. Donc j'ai décidé de repartir vers une licence d'art plastique, rien à voir. Et alors je ne sais plus comment, mais il me semble qu'au cours de cette licence, j'ai consulté une conseillère d'orientation, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis en plus, avec une licence d'art plastique, on ne peut pas faire grand-chose, hein, faut être honnête. Et j'ai découvert le métier d'éditeur. Il me semble que c'est la conseillère d'orientation qui m'a fait découvrir ce métier. Et je me suis dit, c'est trop bien, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Et du coup, j'ai raccroché en cours de route une licence de lettres modernes. Puis après, j'ai regardé les différents masters. Je vous passe les détails parce que ça a été un petit peu long. Pour finir par trouver le master professionnel des métiers de l'édition à Strasbourg, qui est un master qui est en 2 ans, donc ça m'intéressait vraiment de pouvoir approfondir l'apprentissage du métier. Et voilà, quand je suis arrivée dans ce master, mon objectif, c'était juste d'être éditrice. Et puis, en fait, j'adore les littératures de l'imaginaire, je suis lectrice de fantasy, donc je voulais travailler dans l'édition de l'imaginaire. Et je me suis rendu compte en cours de route que c'était pas du tout un secteur qui recrutait. C'est très compliqué d'être embauché par des maisons d'imaginaire. Donc je me suis dit, je vais créer ma maison, quoi. Voilà. Il n'y a pas de travail pour moi, je vais créer mon propre emploi, quoi. Depuis, ça devait être à peu près en milieu de première année de master. Enfin, ça s'est vite mis en place. Et depuis, j'ai fait toutes mes démarches, enfin tous mes stages en master. Je les ai fait par rapport à mon projet pro, mon mémoire, enfin voilà. Et tout le reste a suivi. Et après, j'ai encore fait d'autres trucs. Enfin, je m'arrête plus, quoi. Après le master, j'ai fait un DU étudiant-entrepreneur à Brest. Voilà, je suis passée de Strasbourg à Brest. Qui m'a permis vraiment de travailler l'aspect entreprise que je n'avais pas du tout vu dans mon master. On nous apprend à être éditeur, mais à être éditeur salarié et pas entrepreneur. Donc voilà, j'avais besoin de compléter un petit peu ma formation pro.
En creusant un peu sur ta structure, on a vu que tu avais passé un peu de temps avec Entreprendre au féminin, qui est une structure bretonne, mais ça peut, cette question-là elle peut aussi directement se connecter à ton DU entrepreneuriat. Comment cet accompagnement au travail entrepreneurial, en fait, à la gestion d'entreprise, t'a aidé dans ton lancement d'entreprise ?
Alors oui, avec Entreprendre en féminin, en fait, j'ai rejoint le réseau donc après mon DU étudiant entrepreneur. Donc j'ai pas fait la formation émergence de projet ou quelque chose comme ça. Mais par contre, j'ai bénéficié des ateliers que le réseau propose, ce qui m'a permis voilà d'approfondir certains points que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu pendant mon DU. Mais ça me permettait de les retravailler encore. Enfin, quand on rabâche les choses, on les retient mieux et on arrive mieux à les appliquer. Donc voilà, ça m'a permis d'approfondir ça. Aussi, surtout, de ne pas rester isolé. Ça a été un gros point. Enfin, c'est un point qui revient souvent dans le réseau. Un argument qui revient souvent, c'est de dire quand on entreprend, on est seul. Quand on travaille seul, on ne voit personne. Enfin, si on ne fait pas la démarche d'aller vers les autres. Et donc clairement, enfin, moi, je suis très sociable. Hein, donc je sortais de mes études, de 10 ans d'études, où j'avais une promo en permanence. Donc je travaillais tout le temps avec des gens. Et je me retrouvais toute seule là, à lancer en plus un projet quand même ambitieux. Donc non, ouais, le réseau, ça a été important pour le moral et puis pour l'apport... technique, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... De confronter le projet aussi à un public, voilà. De m'entraîner aussi à expliquer ce que c'était que le steampunk, sans passer un quart d'heure à expliquer. Voilà, c'est trouver... Donc, au fur et à mesure, j'ai peaufiné ma définition, au fur et à mesure des présentations à Entreprendre au féminin. Et le DU, c'était plus vraiment... On a vu des choses. Bon, c'était généraliste sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, puisque mes camarades de promo avaient tous des projets. On avait tous des projets très différents. Donc, c'était pas spécifique à l'édition, mais ça nous a permis quand même de voir de faire de la compta, de la gestion, de la communication, du démarchage. Pour moi, le démarchage libraire, pour les autres, c'était autre chose. Mais les professeurs s'adaptaient aussi, les intervenants, puisque c'était des intervenants professionnels, s'adaptaient à chaque fois au projet de chacun. Donc ça, c'était très riche aussi. Et ça m'a permis vraiment d'ajuster certaines choses, de peaufiner des détails. Bon, j'en apprends encore tous les jours. Hein, ça ne s'arrête jamais, l'apprentissage. C'est ça qui est bien.
C'est une maison d'édition que tu as fondée via un financement participatif. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce financement ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que, tel qu'il s'est passé, c'était comme tu l'avais conçu ?
Non, ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Jamais. Au départ, il me semble que je ne voulais pas faire de financement participatif. Enfin, je n'avais pas spécialement cette idée-là. J'avais un peu d'argent de côté. Et puis finalement, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je pense que c'est une copine, ça doit être Doria Roustan qui m'a poussé à faire la campagne, et elle a bien fait. C'est un sacré boulot, hein, une campagne de financement participatif, c'est un travail préparatoire monstrueux, surtout quand c'est la première campagne, parce qu'on ne connaît pas, on découvre la plateforme, on découvre tout. Ouais, c'est vraiment beaucoup de boulot au niveau graphique. Au niveau de la communication, au niveau de la rédaction des contenus, bon ça, de toute façon, il fallait les faire pour le site internet, donc ça se recoupait. Mais alors la création des contreparties, la détermination des contreparties, ça c'est un casse-tête monumental. Et encore à l'époque, j'avais pas de TVA, j'étais en franchise de TVA. Donc c'était beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, c'est vraiment le casse-tête avec la TVA. Enfin bref, c'est plein de... Je sais plus. Après, j'avais déjà une communauté sur Facebook parce que j'avais lancé ma page Facebook. Je crois que je l'ai lancée en 2014, si je dis pas de bêtises. Enfin, je l'ai lancée à partir du moment où j'ai eu mon projet de maison d'édition en master. Donc j'avais déjà une base de communauté et donc ce qui m'a permis de communiquer sur le projet, enfin sur la campagne. Parce que ça, c'est vraiment le challenge, c'est de pouvoir communiquer sur la campagne. Quoi. C'était intense, je me rappelle que c'était intense. C'était un mois vraiment de stress, de voir le pourcentage monter en se disant est-ce que ça va le faire. Mais une fois que c'est réussi, ça donne confiance, ça permet d'avoir déjà des clients, en fait, parce que c'était mes premiers clients, les contributeurs. Ça permet aussi à la banque d'avoir confiance quand on arrive à rassembler 12 000 euros, je crois. Je crois que j'avais fait ça, ouais, 12 000. Bon, bah, ça donne confiance aux banquiers, même si du coup, je n'ai pas eu besoin d'eux. Mais je sais que le jour où j'aurai besoin, bah, voilà, ça devrait aller pour avoir un prêt ou quelque chose.
Bah, du coup, je peux passer à la question suivante qui va plus être sur le quotidien, parce que là, c'était un événement lancement. Mais aujourd'hui, économiquement, comment est-ce que tu fais fonctionner ta structure, et notamment en termes de diffusion-distribution, qui est un sujet central pour un éditeur?
Au départ, mon objectif, c'était d'abord de me faire connaître via les salons et les festivals. Bon, le Covid est arrivé, ça a compromis un petit peu ma stratégie entrepreneuriale. Donc j'ai revu un petit peu ma copie et j'ai décidé de développer plutôt la boutique en ligne. Je travaille beaucoup ma com sur les réseaux sociaux, j'y passe beaucoup de temps. J'ai une amie qui m'aide, qui est spécialiste, dont c'est le métier en fait, qui est web manager, qui m'aide sur la gestion de mes réseaux sociaux pour vraiment augmenter ma communauté, me faire connaître. Mais c'est vrai que sans salon, pour se faire connaître rapidement, c'est plus compliqué. Donc là, c'est un peu du goutte à goutte, on va dire. Mais voilà, j'ai développé vraiment la boutique en ligne. Après, je suis auto-diffusée, distribuée, donc voilà, c'est du boulot. Ça veut dire que c'est moi qui dois aller démarcher chaque libraire pour leur proposer mes livres, leur faire connaître la maison. Donc je suis plutôt diffusée en Bretagne pour l'instant, Brest, Morlaix, le long de la RN12, on va dire. Un peu en Normandie aussi, puisque je suis allée en Normandie à Rouen en mars pour une conférence sur le steampunk, donc j'en ai profité pour aller voir les libraires sur la route. Et je suis auto-distribuée, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un libraire me passe commande, c'est moi qui expédie le colis. Alors par contre, je suis référencée sur Electre, qui est une base de données pour les libraires, qui leur permet de commander les livres. Il faut que j'améliore mon référencement, parce qu'il y a d'autres bases de données. Voilà, il faut que j'améliore mon référencement, pour les libraires en tout cas. Mais ouais, aujourd'hui, essentiellement, c'est la boutique en ligne et les libraires, les quelques libraires avec qui je travaille, plutôt bien, en plus. Donc, voilà.
Donc les événements qui vont rouvrir, ça va plus être un super bonus qui va arriver après, quoi.
Oui, bah, ce sera plus qu'un bonus, je pense. Mais, ouais. Bah, on croise les doigts, quoi, pour que ça soit maintenu.
On arrive là à la fin de notre interview. Est-ce que pour conclure, tu aurais un ou des conseils à donner aux éditeurs et aux auditrices et qui souhaiteraient se lancer dans un projet de maison d'édition?
Je pense que j'aurais tendance à redonner les conseils qu'on m'a donnés moi quand je me suis lancée. Notamment un conseil qui est revenu assez fréquemment de la part de plusieurs éditeurs, en plus d'origine assez... Enfin, d'horizons assez variés, c'était d'être prudente sur le tirage des premiers livres, de ne pas partir sur 1000 exemplaires directs, mais d'être plutôt autour des 500, voire 300. Voilà, de faire attention à ça, parce qu'après, quand on a un stock qui nous reste sur les bras, c'est pas marrant, c'est de l'argent qui est sorti, mais qui ne rentre pas. Donc ça ne sert à rien de produire beaucoup si on ne vend pas derrière, quoi, si on n'a pas les moyens de vendre derrière. Vaut mieux réimprimer, parce qu'en plus aujourd'hui avec le numérique, l'impression numérique, on peut faire des petits tirages assez facilement à des prix abordables. C'est sûr qu'au coût unitaire, ça revient plus cher de faire des petits tirages, mais c'est plus prudent quand même, quoi. Après, autre conseil, je pense que c'est important de pas rester isolé, de parler aux autres éditeurs, d'aller chercher en fait les conseils justement auprès des autres éditeurs. Non, j'avais pensé à autre chose, mais... Non, je sais plus, mais... Ah oui, bien définir sa ligne éditoriale. Ça aussi, c'est un conseil qui est beaucoup revenu. C'était de... Bon, soit on fait de l'édition généraliste, mais il faut quand même avoir une spécificité, parce qu'il faut... Enfin voilà, des maisons d'édition, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de petites maisons... quelques grosses qui guident le marché, mais il faut réussir à se distinguer au milieu de tout ça, et donc c'est important d'avoir une spécificité, d'être différent en fait. Enfin, qu'est-ce que nous on va apporter de plus à l'édition, au monde de l'édition, quoi. Donc ça, bien définir sa ligne éditoriale, je pense que c'est très important. Ça permet aussi de de savoir où on va et ça facilite la définition aussi de la charte graphique, enfin de l'identité visuelle de la maison, de la façon de communiquer. La façon de communiquer sur les réseaux sociaux et auprès de son lectorat. Parce que bah, quand on sait ce qu'on publie, on sait à qui on s'adresse. Et dans ce cas-là, on peut adapter sa communication à son public, quoi. Voilà, je pense que c'est les deux conseils vraiment récurrents que j'ai pu avoir et que j'ai appliqués. Je ne regrette pas d'avoir appliqué. Voilà, je pense que c'est important, oui, aussi, de tenir compte des conseils des gens qui ont de l'expérience. Alors moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein, ça fait que 2 ans que je suis lancée, mais voilà, d'aller voir plusieurs éditeurs, d'avoir plusieurs avis aussi, plusieurs regards sur le projet, pas hésiter à parler de son projet et à le confronter, parce que c'est le meilleur moyen de savoir si on fait fausse route ou pas, parce que ça peut arriver aussi.
Ok, eh ben, c'est vrai que c'est un conseil qui nous est souvent, enfin qui revient souvent quand on va en discuter avec les éditeurs pour ces interviews-là, l'idée de pas hésiter à échanger, à confronter son projet à l'esprit des autres. Donc c'est bien de voir que ça se confirme au fur et à mesure de ces rencontres. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Camille de...
Oui, merci Camille.
Bah, merci à vous surtout.
On se revoit très bientôt pour un autre épisode, soit classique, soit un hors-série de l'été. Et on vous dit à très bientôt.